Les murs.
Les murs.
Les murs.
Les murs.
Les murs.
Les murs n'ont pas d'oreilles.
Les murs n'ont pas d'oreilles, au cœur du quartier de Sainte-Croix, Radio Fadjet. Celui qui nous guide cette semaine est un spécialiste de la promenade. Un spécialiste, oui, puisque voilà quelques années qu'il décide d'en faire son métier, proposant le temps d'un après-midi, une visite guidée dans le vieux Metz pour conter ce qu'il appelle « la petite histoire ». Une petite histoire qu'il aime tout de même accompagnée d'une dégustation de produits locaux, de vin évidemment. De quoi apprendre sur l'histoire messine tout en profitant de sa gastronomie. Claude Spitz-Nagel, c'est son nom. C'est lui qui se cache derrière cette idée, la volonté de partager l'histoire, le patrimoine, l'architecture, de façon plus ludique. Allez, c'est parti.
Les murs n'ont pas d'oreilles.
Alors, balade avec Claude Spitz-Nagel, c'est bien ça?
Oui, c'est tout à fait ça. Oui.
Voilà, donc on commence cette balade aujourd'hui avec la rue Taison. Vous allez nous balader un petit peu dans le quartier de Sainte-Croix. Donc, on commence tout de suite.
Si vous voulez bien. Alors, il faut savoir une chose, cette balade, c'est surtout, qu'est-ce qu'elle a d'important? C'est le fait que ce soit le très vieux quartier de Metz. C'est là où la ville a pris son origine. C'est le quartier Sainte-Croix qui, par excellence, a été l'origine de Metz. Alors, on se trouve là, juste à l'intersection de la rue Taison et de la Fournirue. Eh bien, la première chose qui frappe, c'est un peu cette première maison avec une fenêtre en angle qui est très en hauteur. On peut se demander d'ailleurs ce qu'elle fait là. Eh bien, il faut savoir que l'origine du terme de fournirue viendrait du fait que l'on fabriquait les armes blanches ici. C'était d'ailleurs un lieu de reconnaissance puisque le produit était d'une qualité extraordinaire. On dit même qu'éventuellement Charles Quint avait été avec des gens de Tolède pour donner la technique de la trempe d'acier qui donnait qu'à un moment donné une dureté au niveau de tout ce qui était armes très importante. Donc, la fournirue, c'était un endroit où l'on fournissait, où se le fournissait les armes, ou éventuellement où l'on le fabriquait grâce au fournil. Donc, fournirue viendrait ou de fourniture ou de fourneau-fournil. Eh bien, à cet endroit-là, on a donc cette fenêtre qui est en hauteur. Tout simplement, elle est à l'angle. Quand on est devant cette fenêtre, on est à genoux. Eh bien, c'est tout simplement quand quelqu'un frappait à la porte, on pouvait voir de part et d'autre qui frappait, et en plus, on était hors d'atteinte des piques. Donc c'était une manière de se protéger et de voir qui voulait rentrer à la maison. Alors il faut savoir que cette maison-là, elle a une particularité, elle a saint patron des tonneliers, le chef des tonneliers venait à cette fenêtre et venait haranguer sa foule, donc en précisant tout ce qui devait être fait, les nouvelles règles qui devaient être déterminées au niveau de la profession. Et quand il descendait, il allait aux quatre coins de la place Saint-Jacques et prenait l'oreille des femmes de ménage qui avaient bien balayé en disant « Pucelle, je suis content de vous ». Le terme de pucelle, à l'époque, était une reconnaissance. Si vous voulez bien, on va entrer dans cette rue Taison.
Ouais.
Alors, la rue Taison, il y a une légende qui s'y rapporte, c'est la fameuse légende du Graouli. D'ailleurs, quand on regarde la rue Taison, en haut, on voit tout de suite le Graouli qui vient d'être d'ailleurs restauré puisqu'il avait été décroché quelque temps. Eh bien, c'est tout simplement Saint-Clément qui voulait donc évangéliser la ville, voulait faire un acte d'éclat. À l'époque, il y avait un dragon qu'on appelait le Graouli qui sévissait, qui tuait, abîmait les récoltes. Eh bien, tout simplement, Saint-Clément voulait tuer le dragon. Et en descendant du haut de la ville, donc du vieux Metz, il descend dans la rue Taison et entend un bruit. Et à un moment donné, il dit « Taisons-nous ». Et c'est de là que, soi-disant, la rue Taison porterait son nom. Alors, c'est une légende. L'origine du mot « Taison » vient de la transformation de station, texion, pour arriver en Taison. Il faut savoir qu'il y avait un arrêtoir religieux qui était tout simplement positionné au bas de la rue. Et c'est l'arrêtoir religieux qui donnerait, tout simplement, lors des grandes processions, qui donne le nom de cette rue Taison. Alors nous sommes devant la rue de la Princerie. Rue de la Princerie, d'où vient le nom? Tout simplement, le princier, c'est la deuxième personne de la cathédrale de Metz. La première personne, c'est évidemment l'évêque. Le deuxième, c'était le princier. Eh bien, tout simplement, il résidait derrière, là, en l'emplacement où il y a la mairie de Metz, il résidait à cet endroit-là. À un moment donné, quand Blondel a construit sa place d'armes et sa mairie, et ainsi que le devant de la cathédrale, et également le marché couvert qui devait être le palais évêquial, eh bien, on a démoli, mais avant de démolir, on a voulu déloger le princier. Le princier, donc, s'est retrouvé dans la rue du Four au Cloître, qui est donc la rue suivante. Et donc, il y est resté jusqu'au moment où l'on a donc détruit cette partie de bâtiment qui a laissé la place au niveau de la cité administrative. Donc, le principe était là. Il faut savoir que cette rue-là s'appelait la rue du Loup, rue du Leu. On ne sait pas trop bien d'où cela vient. Un loup ici, ça me paraît un peu bizarre. Mais enfin, c'est toujours été là. On pense que c'est un monsieur qui s'appelait Loup. On avait un monsieur qui s'appelait Chièvre, qui voulait dire chèvre. Et on a la rue de la Chèvre. Donc, pourquoi pas un monsieur qui s'appelait Loup ou Leu. Voilà. Juste en face, donc il y a un restaurant, et bien juste en face était une maison qui possédait un moulin à vent. Et oui, on a retrouvé. Donc le voisin, un jour, a écrit à son maire en disant « Monsieur, j'ai un voisin qui est menuisier, qui actionne ses machineries grâce à des ailes d'un moulin à vent énorme et qui menace régulièrement de tomber dans mon jardin. Je trouve ça dangereux, faites quelque chose pour moi. » Donc on a retrouvé, de ce fait-là, un moulin qui était à cet endroit-là, qui actionnait donc des machines. Ça devait être certainement pour faire du sillage de planches, donc à cet endroit-là.
Mais alors, il était où, le moulin ?
Il était juste ici.
D'accord, il était de ce côté-là de la rue.
Alors, avec les ailes qui étaient donc en latéral. Pourquoi le vent venait comme ça ?
D'accord, ok.
Ici, regardez, au 23, on se retrouve avec, regardez, des petits vasistas en haut qui sont en forme arrondie, avec une particularité, c'était un endroit où l'on faisait du séchage. Alors, ça pouvait être aussi bien du séchage de tabac que de séchage éventuellement de foin, etc. Puisque, bon, on avait beaucoup de gens qui travaillaient grâce à la force animale. Et la force animale, ben, les animaux, il fallait leur donner à manger. Donc, on faisait des aires de stockage ou de séchage. Là, il paraît-il que ça devait être du séchage de tabac. Il faut savoir que le tabac a été implanté à Metz avant d'être implanté en Alsace. On avait même la manufacture des tabacs qui est installée de rue Belle-Île, devait être installée tout au démarrage, c'était une démarche, près de la place Mazel. Alors, pourquoi la place Mazel ? Tout simplement parce que la Seille passait et que l'on pouvait installer un moulin qui permettait de hacher le tabac pour en faire donc du tabac ou à priser ou éventuellement à fumer en pipe. Voilà.
Radio Fadjet 94.2 Fortet. Et même s'il a sorti il y a quelques mois son album There Is Love In You, c'est dans les archives de Fortet que j'ai trouvé ce morceau électro et apaisant, Smile Around the Face. À l'image de Claude Spitznagel, le sourire aux lèvres, il nous raconte avec passion la vie passée dans cette rue Taison à Metz.
Les murs n'ont pas d'oreilles.
Un autre restaurant, vous me direz, il n'y a que des restaurants ici. Ben, il y en a. Il y avait une petite particularité, là c'est aux hauteurs du numéro 27, et bien c'était une maison close. Ah oui, avec tout ce que ça peut entraîner.
La maison close
est ici. Alors, cette maison close a une particularité, c'est qu'elle avait un lien avec la maison à côté, parce que s'il y avait une descente de police, voilà cette maison-là, qui est donc le numéro 25. Donc il y avait un passage entre le 25 et le 27. Et pourquoi ? Le passage était tout en haut. Alors, ce qui faisait que quand la descente de police arrivait, les gens, les notables, on les mettait en haut. Ils pouvaient descendre par le 25 pour arriver dans une cour pour sortir sur la rue des écoles. Et de ce fait-là, bah, le pauvre qui habitait ou qui était, disons, en train d'œuvrer au premier étage, c'est lui qui partait au poste de police. Voilà pour la petite histoire. Là, ici, vous allez avoir l'atelier de restauration. Regardez ce bâtiment, comme il est magnifique. On est déjà avec des vitrines de magasins qui sont déjà beaucoup plus tardives. Là, c'est des boutiques telles qu'on les retrouvait au 19e siècle. Là, vous avez typique la boutique du 19e siècle. Vous verrez tout à l'heure, quand on sera dans la rue de la Bérisse, on va voir une boutique telle qu'on l'avait à la période Renaissance française. Le style est totalement différent. Là, on est déjà avec une vitrine d'exposition, alors que là-bas, vous verrez, c'est beaucoup plus modeste.
Vous pouvez peut-être décrire le...
Alors, on va essayer de la décrire. Vous avez une porte centrale qui est de part et d'autre avec une grande verrière, avec des carreaux, donc c'est un peu comme un vitrail, mais sans teintage. Et vous avez des formes arrondies sur le côté qui adoucit, un rebord, un chambranle de fenêtre qui est bien fait pour donner envie de regarder. Et puis, ma particularité, si on l'ouvrait la porte, puisqu'à l'heure actuelle, c'est Pierre qui travaille dedans, donc un maître ébéniste qui fait du travail magnifique à l'ancienne, eh bien, on aurait une sonnette à l'ancienne qui sonnerait également pour aller le voir. Donc, ça serait une petite particularité d'essayer, mais bon, ça serait sympathique de voir.
Quoi ?
Alors, nous sommes là maintenant sur la place Sainte-Croix. Alors, d'où vient ce terme de Sainte-Croix ? Eh bien, l'endroit de la place où vous avez la fontaine, qui est une fontaine qui a été démolie pour beaucoup pendant la Révolution, puisqu'on avait Jésus-Christ et deux saints de part et d'autre, où l'eau coulait, donc d'un d'une vasque et de l'autre d'une conque, et Jésus-Christ qui était donc en croix. Et donc, vous aviez donc, qui a été démolie donc pendant la Révolution française, comme beaucoup de monuments, tout ce qui était symbolique religieux était démoli. Eh bien, cet endroit-là, sur la période romaine, il y avait un temple de Jupiter, d'où le terme de la Jurue qui viendrait donc du Jupiter rue et non pas de Judenstrasse comme les avaient dit les Allemands, c'est-à-dire la rue des Juifs. Il y a eu énormément de gens de la communauté dans ce quartier-là, mais l'origine, ça vient du temple de Jupiter. Comme beaucoup, la religion cherche à s'accaparer tout le côté mystique des lieux d'anciennes religions ou d'anciennes mythes de religieux. Donc on a construit une église, l'église Sainte-Croix. L'église est devenue vétuste, on l'a démolie, on fait les écoles. En face, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, vous avez la maternité Sainte-Croix. Alors, cette maternité, elle date des années 30. Avant, vous aviez au Moyen-Âge un hôtel qui s'appelait l'hôtel de la Bulette. C'était là que l'on faisait tous les enregistrements de toutes les ventes, toute acquisition et vente de bâtiments, de terrains. Et on y apposait un cachet qui était en forme de bulle, d'où le nom de Bulette et de l'hôtel de la Bulette. Cet hôtel a eu après une triste vocation puisque c'est devenu une prison. Et il s'avérait qu'à un moment, au 19e siècle, on a un monsieur Leclerc qui se trouvait dans la rue Serpenoise et qui fabriquait tout ce qui était passementerie et plumet. Et ici à Metz, on en consommait énormément. Pourquoi ? Parce qu'on avait beaucoup de militaires et parce qu'ici, Metz était une ville très mode. Et on expédiait, pour vous dire, tellement on avait des ouvriers performants, on expédiait cela même jusqu'à la cour de Russie. Eh bien, donc Leclerc, voulant s'étendre un peu dans ses bâtiments, est pris à l'étroit sur la rue Serpenoise, est venu s'installer dans le fameux hôtel de la Bulette. En 1930, on démolit cet hôtel, on récupère les créneaux qui sont en haut, donc ceux-ci et donc les créneaux en hauteur sont d'origine. Eh bien, on a remis la maternité Sainte-Croix. Alors, ici, on va arriver dans la rue de la Bérisse. Alors, la Bérisse, c'est qui ? Ben, quand vous regardez la plaque, c'est le bienfaiteur, c'est celui qui a créé tout simplement la jeunesse ouvrière. Et donc, il y a un bâtiment qui existe à l'autre bout de la rue et qui existe toujours et qui a toujours cette vocation d'héberger donc les jeunes ouvriers. Mais ce qui me plaît le plus dans cette rue-là, c'est cette échoppe-là. Tout à l'heure, on avait vu le magasin qui était dans la rue Taison avec une belle vitrine, etc., bien large, qui permettait de laisser rentrer la lumière d'une manière très importante. Là, on est dans une échoppe telle qu'on les avait à la Renaissance française. Alors regardez, c'est beaucoup plus modeste. Vous avez d'un côté une porte, sur l'autre côté, donc à côté, non, à la porte, on a une petite trappe qui permet de descendre à la cave. Et là, vous avez une petite vitrine qui fait pratiquement, allez, on va dire, le quart de l'autre. Eh bien, c'est dans cette vitrine que l'ouvrier travaillait, que le maître travaillait. La porte, la petite porte en dérobée qu'il y est en bas, ben c'est celle qui permet d'aller à la cave pour aller chercher la marchandise ou éventuellement pour entreposer les marchandises finies. Et vous avez une échoppe en pente qui va présenter les produits et les gens donc vont acheter comme ceci. Alors il y avait donc cette porte sur le côté, cette porte il débouchait sur un long couloir. Ce couloir, ben, au bout vous aviez une grande pièce et cette pièce permettait tout simplement de présenter et de vendre surtout à une clientèle huppée des produits beaucoup plus élaborés, beaucoup plus luxueux.
Il y a énormément de choses et c'est plein de choses qui se croisent et qui sont complètement différentes.
Mais c'est ça les sociétés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a toujours tendance à aseptiser, à ne parler que des personnages qui sont très connus. On va vous parler d'un Louis XIV, parce que Louis XIV, s'il n'y avait pas eu de gens qui étaient capables de faire des jardins, des bâtiments, des meubles et de créer un style Louis XIV, bah Louis XIV peut-être qu'on n'en aurait pas tant parlé. Donc à un moment donné, c'est les fameuses personnes qui sont dans l'oubli qui ont peut-être fait les grands. Alors je voulais leur faire honneur parce que, à mon avis, c'est la petite histoire qui doit amener à la grande histoire. C'est ce qui plaît au niveau des gens. J'ai remarqué que c'est par là qu'ils accrochent, aussi bien par l'histoire que la petite histoire.
Like a lake without bruises, sorrow's just for fools, and sadness is for losers. I don't know how to behave, 'cause it's been two days now since you promised me to call. In my head, there's squirrels jumping up and down. They've been coming just to do the cleaning out. But it won't help much this time, for all my thoughts are circling around you, fool. I saw the fear in your eyes as you were holding me tight. Why couldn't you stay another hour or two? Don't go away. Don't go away. Don't go away. Don't go away. But you turn around as I try to kiss you there, so I fall over, hit the ground with my eyes all closed. You see, I see nothing. There are flowers in the park, I guess you need them, and those mockingbirds you got, let's go feed them. All these animals are lying around your nose. When you wake me up, I'm all yours. Dictionary phrases. I'm so tired of your schoolyard embraces. You don't like Sonic Youth, so fuck off and die too.
Radio Fadjet 94.2. Bodybill, Willem. Bodybill, maître berlinois de la pop électro, avec ici ce Willem plutôt très très pop pour le coup. Toutefois un morceau apaisant, tout comme ce lieu, au cœur du quartier de Sainte-Croix à Metz, un lieu d'une grande quiétude, comme aime le dire notre promeneur du jour, Claude Spitznagel.
Les murs n'ont pas d'oreilles.
Alors, en allant un tout petit peu plus loin, on va arriver à un endroit qui respire une quiétude. On est en dehors du temps, c'est les Récollets. Alors, si vous voulez bien, on va y rentrer et on va respirer cette quiétude. C'est réellement un lieu en dehors du temps. Là, on est dans le petit jardin, qui est le jardin typiquement moyenâgeux, avec des plantes médicinales, où d'ailleurs on a tout un ensemble de fiches qui vous le rappellent exactement quelles sont les propriétés et quel est le nom de la plante. Mais regardez un peu ce cloître qui est fermé maintenant, parce qu'avant il était ouvert, il n'y avait pas de vitres qui protégeaient comme cela. Mais vous avez une impression de en dehors du temps, de quelque chose qui est reposant, apaisant. Eh bien, c'est un lieu où je me commets assez souvent, puisque c'est là où sont situées les archives municipales de la ville de Metz, que j'engage à aller, puisque l'accès à vos archives est gratuit. Il suffit de prendre une carte, et c'est gratuit. Et là, je retrouve des choses qui sont formidables, puisque c'est les individus dont on n'aurait jamais parlé qui se mettent à parler de leur époque, et c'est quelque chose de formidable. Donc on a l'impression d'être tout simplement un maillon d'une chaîne, on est le témoin que l'on passe à quelqu'un d'autre, etc., pour les générations futures. Et je pense qu'on sait très bien où l'on va que dans la mesure où l'on sait d'où l'on vient. Et donc vous avez également donc d'autres activités qui sont développées, entre autres vous avez ce fameux IEE qui est donc l'Institut écologique européen qui est mis en place grâce à monsieur Pelt et qui est très très virulent, donc qui est très actif et qui fait partie d'ailleurs de qui est donc inséré dans les murs de cette enceinte là. Alors il faut savoir une chose, c'est que les archives municipales, eh bien l'endroit où sont les archives à l'époque, c'était la réserve d'eau de la ville de Metz, c'était le château d'eau. Alors on avait les sources qui venaient aussi bien de Lessy que de Sichazel, etc., et qui venaient et débouchaient ici. Comme le point est dominant de la ville de Metz, on pouvait dispatcher l'eau dans toute la ville.
Alors, comment il se représentait ce château d'eau et...
Eh bien le château d'eau, c'était des réserves. Vous aviez des cuves qui se remplissaient, c'est-à-dire qu'on faisait par débord d'une première cuve, on faisait sur une deuxième cuve, et ensuite vous aviez des tuyaux qu'on bouchait, qu'on fermait, qu'on ouvrait, en fonction des approvisionnements qu'on voulait faire dans un quartier ou dans un autre. Pourquoi ? Parce qu'il faut penser qu'il y a des périodes où il y avait sécheresse, donc on ne faisait pas courir l'eau comme on voulait, on stockait l'eau, on essayait de freiner l'utilisation et on donnait des heures où on pouvait accéder au puits. Il y avait même certains quartiers qui étaient, disons, impunis, on fermait même le puits à clé, il y avait quelqu'un qui ouvrait pendant une heure l'eau. Et vous savez, quand on parlait de corvée d'eau, ben, quand on était obligé d'aller à la maison pour aller chercher de l'eau et puis que le quartier puni n'avait plus de puits et qu'il était obligé d'aller chercher de l'eau ailleurs, les autres n'étaient pas d'abord d'accord. Mais en plus, ça faisait faire une distance en plus pour aller chercher son eau, pour boire, pour se laver, etc. Je dirais qu'à l'époque, on en buvait plus qu'on ne se lavait, d'ailleurs.
D'accord, et c'est pour ça qu'il y a un puits, du coup, ici, au milieu.
Oui, ben dans tous les endroits où vous avez une partie habitable, il faut penser qu'il y avait souvent des puits privatifs ou éventuellement des puits qui étaient à destination d'un quartier ou d'un ensemble de rues. Alors, il y avait un puits, une rue qui s'appelait le Puits Béni, qui est maintenant la rue Gaudret. Alors, ce puits béni, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement qu'un jour, se trouve dans le quartier Outreseille, près de la rue Mazel. C'est une rue perpendiculaire à la rue Mazel quand on y rentre sur la gauche. Et pas loin de là, on a une église qui existe. Et un curé, un jour, a été un peu trop virulent vis-à-vis d'une famille et il s'est retrouvé dans le puits. Donc là, il y a eu le puits qui a été condamné pendant un petit bout de temps. Pourquoi? Parce qu'il a fallu sévir. On a fermé le puits. Donc, ce quartier-là a été privé d'eau pendant pratiquement près de 10 ans. Ce qui était très, très, très grave. Hein. Donc il y a eu un commerce qui s'est créé, c'est-à-dire qu'on avait un monsieur qui allait chercher avec son charroi, avec des tonneaux, allait chercher de l'eau et la distribuait et la faisait payer. Donc on avait les crieurs avec la vendeur d'eau, qui veut de mon eau, voilà. Regardez, c'est réellement en dehors du temps. Là, à présent, on se trouve à l'intersection de la rue d'Enfer et de la Bérisse. Alors, une petite particularité sur cette maison qui est juste à cet angle-là, il faut savoir que la rue de la Bérisse s'est appelée à un moment rue de la Fonderie. Effectivement, dans cette maison-là, il y a eu la première fonderie à Metz. Alors, qu'est-ce qu'elle avait comme particularité, cette fonderie ? Bien, Metz, c'était l'une des premières villes qui s'est défendue grâce à des canons. Et dans cette fonderie-là, on fabriquait les canons. Deuxième particularité de cette maison, c'est que vous allez avoir ici 5 sigles de famille, de vieille famille messine. Et avec une date, 1599. Alors, 1599, pour les Messins, ça évoque la naissance du premier maréchal de France, qui est originaire de notre région, qui était donc le maréchal Faber. Avec une petite particularité, ce maréchal-là, c'est que son père a hérité des terres de Moulins-les-Metz grâce au duc de Lorraine, puisque c'était une enclave du duc de Lorraine à ce moment-là, dans les terres du pays de Messins. Et donc, lui donc, prend ce titre, mais le maréchal Faber, donc son fils, est devenu maréchal alors qu'il n'a pas encore hérité du titre du père. Donc c'était le premier maréchal roturier de France. Alors, ces familles, on peut voir qu'il y a quatre familles qui sont bien visibles. On a les familles de Heux, on a les familles de Gargan, etc., etc. Et puis il y a une écussion qui est un peu usée. Bah, tout simplement, c'est une famille qui est tombée dans le discrédit et dont on a supprimé les âmes. Ici, on se trouve au 1 rue d'Enfer. Alors, le 1 de la rue d'Enfer, c'est un petit bâtiment où on voit une galerie d'art qui est positionnée et une école de peinture. Eh bien, cette particularité, c'est à cet endroit-là que se situait la première synagogue à Metz. Et la synagogue était située à cet endroit-là. Ensuite, la synagogue a été déplacée près de la rue de Lévi-Blore, qui est donc située près des quais, en bas de la rue des Jardins. Donc c'est là que la communauté israélite a eu son premier fondement religieux, mais c'est là aussi où la ville, le soir, ils étaient obligés de venir et de se cantonner dans cette partie de ville quand ils n'étaient pas interdits de cité ou quand il n'y avait pas de pogrom. Ne dit-on pas à un moment donné que quand il y avait des épidémies, eh bien bon, on sait que les métiers de l'argent étaient faits par la communauté israélite et donc ils prêtaient de l'argent, ce qui était interdit aux catholiques à l'époque. Eh bien donc quand il y avait une épidémie, en place Saint-Louis, on brûlait 7 chats noirs et on brûlait 7 membres de la communauté israélite et de préférence ceux à qui on devait de l'argent. Donc voilà, toute une petite particularité. Donc c'est quand même assez émouvant de savoir qu'ici c'était la première synagogue à Metz. Et en descendant un tout petit peu, on se retrouve avec une terrasse. Eh bien à l'emplacement de cette terrasse-là, il y avait la maison dite maison de Rabelais. Et oui, Rabelais est venu à Metz. Il est venu d'ailleurs dans le sillage d'un espion qui était à la commandite du roi de France pour aller espionner les lenders allemands. Et arrivé à Metz, eh bien lui, il est resté ici. Rabelais donc est resté à Metz. Et il a été payé par la ville de Metz en exerçant pendant pratiquement un peu moins d'un an le métier de médecin. Et c'est là qu'il a commencé à écrire son fameux roman qui était Gargantua. Et dans les écrits de Gargantua, on retrouve tout le côté festif de la ville de Metz et quelques petites particularités propres à Metz. Et puis il y a également des Allemands qui ont séjourné à Metz, qui ont été amoureux de cette ville-là et qui ont laissé entre autres également des traces très vivantes. On a entre autres un Allemand qui a écrit un livre qui s'appelait Le magicien Museau, qu'il faut absolument lire puisqu'il a été traduit et c'est réellement un chant à la ville de Metz. Vous avez des gens comme celui qui a refait la cathédrale de Metz, donc Toberon, qui est donc avec cette néo-gothique, avec l'enfer et l'enfer et le paradis en façade avant, donc sur le côté de la place de la cathédrale. Eh bien lui, quand en 1918 il a fallu qu'il parte, il n'a pas pu supporter de quitter la région, il s'est suicidé. Donc on a des chantres qui ont parlé de la ville de Metz.
Une balade très instructive aujourd'hui, et plus encore si vous désirez poursuivre la balade en compagnie de Claude Spitznagel. Un site internet, le www.icarconcept.com. Claude Spitznagel anime aussi des promenades avec pour décor les rues de Metz, théâtre d'une histoire riche et palpitante. Et pour vous promener, vous pouvez aussi retrouver Les murs n'ont pas d'oreilles sur Radio Fadjet, évidemment, sur le fadjet.net, sur Facebook, forcément. Et puis, un site internet qui voit le jour, le http://lesmurs.net16.net/site. Voilà, si vous avez eu le temps de noter, et bien vous pouvez vous référez à ce site. Et voilà, maintenant que vous êtes bien informés, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir et à la semaine prochaine sur Radio Fadjet.
Les murs